C'est une annonce parue dans le journal Le Monde. Le gouvernement de Sébastien Lecornu abandonnerait le projet de consultation citoyenne anticipée sur le processus de Bougival. Émotion mondiale après le massacre antisémite qui s'est déroulé en Australie à Bondi Beach à Sydney. Un père et son fils ont ouvert le feu sur une foule, faisant 15 morts et une quarantaine de blessés selon le dernier bilan. Deux géologues calédoniens envoyés en renfort lors de l'éboulement survenu le mois dernier à Afaïti, en Polynésie française. De retour sur le territoire, ils dressent aujourd'hui le bilan de leur intervention. Les exploitants de Nakamal créent la Fédération des artisans du Cava, FAK, pour faire part aux institutions de leurs inquiétudes quant au futur encadrement de ces établissements. Un combat en début d'année prochaine pour Cédric Do. Le Calédonien Fighter était notre invité ce midi dans le Mac des Sports pour parler de ses derniers combats sur les rings métropolitains. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Un nouveau coup dur pour l'accord de Bougival. Nous en parlions dans notre édition de la mi-journée. Selon le journal Le Monde, le gouvernement abandonne le projet de consultation anticipée. Le prochain Conseil des ministres du 17 décembre n'adoptera pas, comme prévu initialement, le projet de loi sur la consultation citoyenne anticipée. Elisabeth Noir.
C'est une information du journal Le Monde qui est tombée ce matin pour nous et qui a provoqué une certaine surprise. Non pas tant pour l'abandon de la consultation anticipée que par la façon dont l'information a été rendue publique. Selon le quotidien, le prochain Conseil des ministres du 17 décembre n'adoptera pas, comme prévu à l'origine, le projet de loi sur une consultation anticipée des Calédoniens sur l'accord de Bougival. Selon les informations du Monde, et je cite, « l'exécutif renonce pour l'heure à cette initiative contestée ». Cette information, qui n'est pas encore confirmée officiellement, intervient une semaine après l'avis favorable donné par le Congrès à l'organisation de cette consultation des Calédoniens. Un avis favorable dans un Congrès très divisé, puisqu'il y avait eu 19 voix pour, 14 voix contre et 19 abstentions. Mais surtout, cette consultation peine à trouver un soutien au niveau national après que le Parti Socialiste ait demandé au gouvernement d'y renoncer. Il y avait un fort risque qu'il n'y ait pas de majorité au Parlement pour adopter ce projet de loi organisant la consultation. Sur le territoire, tous les groupes politiques disent attendre la confirmation de Paris avant de réagir à cet éventuel abandon de la consultation. Pour le groupe Rassemblement au Congrès de la Calédonie, Virginie Rufnak a toutefois accepté de commenter l'information.
Nous sommes assez étonnés que nous apprenions par la voix du Monde cette information. En tout cas, notre groupe et semble-t-il d'autres également n'ont absolument pas été informés de cette prise de décision à la fois de l'annulation donc de cette consultation anticipée des Calédoniens sur Bougival. Donc je rappelle, nous considérions que c'était une voie intéressante parce que ça permettait que les Calédoniens soient les derniers juges de paix faute de consensus de toutes les forces politiques et par conséquent, ça redonnait un peu la parole à la population calédonienne dans cette période. Nous voyons que faute de majorité à Paris, puisque les socialistes effectivement avaient tout de suite, dès l'annonce par Madame Moutchou en Nouvelle-Calédonie de cette proposition, indiqué qu'ils ne voteraient pas pour cette consultation anticipée. Donc, faute de majorité, le gouvernement recule. Ce que nous regrettons, c'est qu'il n'y ait pas eu davantage d'anticipation à Paris avec les différents groupes parlementaires. Une anticipation du gouvernement national pour finalement convaincre, avant de faire cette proposition, qu'elle avait de la pertinence, car nous nous trouvons aujourd'hui dans une situation d'impasse.
Pas de confirmation à l'heure actuelle, alors que la ministre des Outre-mer, Naïma Moutchou, est en déplacement à Mayotte. Le journal Le Monde indique aussi qu'Emmanuel Macron devrait de nouveau réunir les groupes politiques calédoniens à Paris à la mi-janvier. Une rencontre qui pourrait se tenir en format conclave, comme ce fut le cas à Bougival. L'information sur cette initiative du président de la République circulait déjà depuis plusieurs jours. Cette rencontre aurait été fixée au 16 janvier, mais là encore, il n'y a pas de confirmation officielle.
Je ne vous le confirme pas non plus, nous n'avons aucune information officielle à ce sujet, ni de la part du président de la République, ni de la part du gouvernement national. Nous avons évidemment, par nos réseaux parisiens, des bruits de couloir de certains de nos amis politiques qui nous indiquent cette intention, mais sans aucune confirmation officielle. En tous les cas, nous considérons qu'il le faut, il faut absolument réunir l'ensemble des forces politiques calédoniennes, car nous avons travaillé depuis des mois et des années sur la possibilité d'un accord qui désormais est à portée de main, et véritablement, c'est de notre responsabilité que d'offrir aux Calédoniens un accord qui donne de la sérénité à leur avenir. Le Rassemblement a toujours été engagé dans une solution partagée, qui ne peut être qu'au sein de la République française, puisque les Calédoniens par trois fois se sont exprimés. Mais il y a une nécessité de travailler un accord d'avenir pour les Calédoniens. C'est la seule voie de paix et de concorde pour la Nouvelle-Calédonie.
réaction de Virginie Rufnac, alors que le rassemblement réunit en ce moment même un comité directeur au Mont d'Or. Réaction également de Calédonie Ensemble par la voix de Philippe Dunoyer. Les élus Calédonie Ensemble s'étaient abstenus lors de la séance publique du Congrès et le parti ne serait pas surpris par cet abandon, nous dit-il.
Peut-être que, à l'occasion de l'expression de l'avis rendu au Congrès, le gouvernement a considéré que ça allait poser plus de problèmes que régler de problèmes. Je pense que c'est une décision, si elle est confirmée, hein, bien sûr, qui traduit, un, le constat que la démarche est très fragile juridiquement, politiquement et méthodologiquement, mais j'espère aussi qu'elle va traduire, d'une manière ou d'une autre, la volonté de poursuivre des discussions avec les formations politiques calédoniennes.
Et puis pas de surprise non plus pour l'UNI qui s'était elle aussi abstenue lors de la séance du Congrès. Le report de la consultation lui convient, nous dit son porte-parole Jean-Pierre Diaoué.
On n'a pas l'information officielle, mais si ce projet de loi ordinaire qui convoque les Calédoniens sur l'accord de Bougival, s'il est retardé à plus tard, c'est ce qu'on souhaite. Nous, ça nous convient. S'il faut reporter, on reporte pour nous laisser le temps de rediscuter sur ces sujets.
Et on devrait savoir dans les prochaines heures si le gouvernement confirme ou non cette information du Monde. Emmanuel Macron devrait de toute façon réunir les groupes politiques à la mi-janvier à Paris, alors qu'une délégation du nouveau FLNKS s'est envolée hier soir pour la métropole. Ils doivent rencontrer les groupes parlementaires et peut-être le président de la République pour appeler à l'abandon de l'accord de Bougival. Autant de sujets dont nous parlerons demain matin en compagnie du député Nicolas Mezoff, le député de la première circonscription, qui sera notre invité du matin demain à 7h30.
Et l'UNI prône une démarche d'ouverture à l'occasion de la rencontre qui s'est déroulée samedi à Téné. Elle fixe comme objectif de réussir la transition pour atteindre l'identité dans un destin commun.
L'UNI qui est composée, rappelons-le, du PALICA, de l'UPM et de l'UNID. Elle veut bâtir un pays souverain et multiculturel. Et elle affirme que sa feuille de route est la devise de la Nouvelle-Calédonie, terre de parole et terre de partage. Mais elle fait aussi le constat que le processus du partage progresse avec une lenteur décourageante, qu'il stagne, voire qu'il régresse. Pour réussir à trouver une solution commune, l'UNI se réfère à la démarche d'ouverture initiée dès 1995 par le président de la province d'Or, Paul Néoutine. Il s'agit maintenant de consolider cette démarche, notamment lors des prochaines élections, explique Jean-Pierre Diaoué, le porte-parole et chef de groupe de l'UNI.
Très prochainement, d'autres élections qui vont venir. Et on voudrait que cette démarche puisse être organisée dans tout l'ensemble du pays, que ce soit dans la province sud ou dans la province des îles, dans la mesure du possible. Et c'est vraiment l'idée pour que cette démarche qui a fait ses preuves en province nord puisse rayonner sur l'ensemble du pays. Il faut sortir des positions des uns et des autres qui ont fait que la Calédonie reste dans une position difficile. Quand on veut, comme le prévoit l'accord de Nouméa, aller vers un destin commun, il faut travailler aujourd'hui, en le temps présent, du partage. Et quand on parle de partage, ça veut dire aussi l'ouverture vers les autres. Donc c'est dans cette démarche-là, c'est la responsabilité que nous avons et on veut organiser, consolider la démarche pour aller dans ce sens.
L'UNI dit vouloir sortir du conservatisme ambiant et du débat politique binaire, mais elle s'inscrit dans les accords de Matignon et de Nouméa. Et la démarche de partage et d'ouverture qu'elle prône doit concerner tous les citoyens calédoniens.
Une ouverture à tous les citoyens calédoniens. Et dans la mesure du possible, c'est pour ne pas qu'on se retrouve entre nous, les indépendantistes entre eux et puis les non-indépendantistes d'un côté. Je veux dire, l'avenir du pays, c'est pas simplement les indépendantistes qui le concerneront tout seuls ou les non-indépendantistes qui le concerneront tout seuls. C'est pas ça l'esprit des accords, que ce soit de Matignon ou de Nouméa. C'est de travailler ensemble. Et c'est là la difficulté, travailler ensemble. Mais c'est vraiment le sens des accords qui ont été la poignée de main. C'est vraiment pour aller ensemble. Et donc, on sait que c'est pas facile. Il faut convaincre, il faut expliquer, mais c'est le travail qu'on se fixe pour les prochaines échéances électorales.
Pour consolider cette démarche, l'UNI, dont les composantes ont quitté le FLNKS, veut mieux s'organiser. Pas question de créer un parti politique parce qu'il faut conserver de la souplesse. Mais lors de sa rencontre de Téné, l'UNI a décidé de donner plus de place à la CSU, la Cellule Stratégique Unie. C'est un groupe de travail avec des représentants de toutes les composantes et elle va se retrouver le 10 janvier.
La cellule de stratégie unie va se réunir pour faire des propositions. Comment on consolide le mouvement sans aller vers la constitution d'un parti politique? C'est pas ça l'objectif. C'est de consolider l'existant. Et puis de garder une organisation souple pour que les gens qui viennent, l'ouverture que l'on fait vers les Calédoniens, c'est vers des gens qui ne sont pas forcément encartés dans un parti politique. C'est pas de venir dans l'Union nationale pour l'indépendance pour être encarté dans un parti politique. Non, il faut garder cette flexibilité, cette ouverture pour que les gens y soient à l'aise quand ils viennent.
L'UNI qui attend par ailleurs une initiative du président de la République ou du gouvernement pour relancer les discussions et les négociations.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Notre question du jour, faut-il, selon vous, que le président de la République reçoive la délégation du nouveau FLNKS conduite par Christian Théin? Si vous pensez que oui, vous tapez 1. Si vous pensez que non, vous tapez 2. Et vous envoyez votre réponse au 3146. Merci pour votre participation et rendez-vous demain pour la réponse à la question du jour. Retour sur ce drame en Australie. Le bilan s'est alourdi dans la tuerie qui a été perpétrée hier soir à Bondi Beach, de loin la plus célèbre plage de Sydney, où la communauté juive s'était réunie pour célébrer la fête de Hanouka. Les dernières précisions de notre correspondant sur place, Jean-Pierre Zajac.
Le bilan, toujours provisoire, de cette tuerie s'est alourdi, vu qu'il fait maintenant état de 15 morts, dont 2 rabbins, un ressortissant français établi à Sydney, Dan El-Kayam, un survivant de l'Holocauste et une fillette de 10 ans, et de 42 blessés hospitalisés, dont 2 policiers. Ceux-ci ont été grièvement atteints lors de la neutralisation des 2 auteurs de cet acte de terrorisme, à savoir un homme de 50 ans, détenteur de 6 ports d'armes, et son fils âgé de 24 ans. Le premier a été tué, tandis que le second, gravement blessé, est sous surveillance policière à l'hôpital. Plusieurs engins explosifs improvisés ont été retrouvés à bord de leur véhicule. C'est un acte d'antisémitisme et de terrorisme, a déclaré le premier ministre australien Anthony Albanese. Notre pays ne se soumettra jamais à la division, à la violence ni à la haine, a-t-il ajouté, avant de faire de ce 15 décembre une journée de deuil national, ce qui s'est traduit par la mise en berne de tous les drapeaux. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
Une attaque meurtrière qui a particulièrement touché les communautés juives du territoire et qui a suscité des réactions de la part des institutions, Jean-François Baudin.
Oui, dans la communauté juive du territoire, c'est évidemment le choc après cette attaque où la communauté juive d'Australie a été ciblée. Alexandra Beraha est la secrétaire de l'association culturelle israélite de Nouvelle-Calédonie.
Ça nous a beaucoup attristés. On a été vraiment très touchés, d'autant plus que nous, ici à Nouméa, on faisait aussi une fête pour célébrer la première bougie de Hanouka. Et on était tous réunis à la synagogue et on a su à la fin de notre événement ce qui s'était passé. Donc ça nous a vraiment tous secoués. Effectivement, c'est des voisins, c'est des communautés qu'on connaît. Ça nous a énormément perturbés. On a eu peur déjà de savoir s'il y avait peut-être des gens de notre communauté qui y étaient ou même des Calédoniens qui pouvaient être dans le coin parce que Bondi, comme tout le monde le sait, c'est une plage où tout le monde aime aller. À première vue, les membres de la communauté n'étaient pas sur Sydney à ce moment-là. La plupart étaient en Calédonie. Pour nous, c'était vraiment comme la Nouvelle-Calédonie, un petit coin de paradis pour notre communauté. Et on s'aperçoit que c'est plus le cas. L'an dernier, il y a un restaurant juif à Sydney qui a été visé, d'autres à Melbourne. C'est plus le cas et c'est ce qui nous fait peur. Et c'est beaucoup d'incertitudes pour notre communauté.
Et la communauté juive du territoire pourrait se retrouver en petit comité dans la semaine à la synagogue pour rendre hommage aux victimes. Dans un communiqué, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a lui exprimé sa profonde émotion et sa solidarité à la suite de cette attaque. Il adresse ses pensées les plus sincères aux victimes, à leurs familles, à leurs proches, ainsi qu'à l'ensemble du peuple australien durement éprouvé par cet acte de violence. L'Australie et la Nouvelle-Calédonie sont deux territoires qui partagent des valeurs de paix, de liberté, de démocratie et de respect de la vie humaine. L'attaque de Bondi Beach constitue une atteinte grave à ces valeurs fondamentales, peut-on lire dans ce communiqué du gouvernement qui condamne évidemment avec la plus grande fermeté toute forme de terrorisme et de violence aveugle. Message également de la présidente du Congrès, Velma Falayo, qui adresse ses pensées aux familles des victimes, à leurs proches ainsi qu'au peuple et aux autorités australiennes. Cet acte de violence constitue une atteinte grave à la dignité humaine et traduit un rejet inacceptable des principes fondamentaux qui fondent nos sociétés, écrit la présidente du Congrès.
Il est 17h59, première pause dans ce journal avant de voir le reste de l'actualité sur le territoire. À tout de suite.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Pour gagner des bons d'achat de 100 000 francs, à dépenser où vous voulez, comme vous voulez, envoyez RRB au 4020. Tous les 1500 SMS, pile sur le compteur, 100 000 francs de bons d'achat sont gagnés. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Et si vous n'êtes pas pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 4020. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 4020. Bonne chance.
Ah, ces assurances, j'y comprends pas grand-chose.
C'est pourtant simple. Fais comme moi. Va chez AXA, agence Ixon à Magenta, à côté de Mazda. Pour la voiture, le voyage, la maison, la retraite, le placement et la protection de toute la famille, leurs conseils sont simples, clairs et efficaces.
AXA, agence Ixon, votre assureur de proximité.
Numéro de RIAS, 170 059.
Info soir, Léana Colombo.
8 personnes décédées dans un éboulement à Tahiti. Le drame s'est produit le 26 novembre dernier. Deux maisons ont été emportées dans un glissement de terrain à Teonu. Deux géologues calédoniens avaient alors été sollicités par la sécurité civile polynésienne. Ils sont revenus aujourd'hui sur leur intervention en Polynésie, Charlotte Coulson.
Ils sont arrivés à Tahiti 48 heures après le premier éboulement et ont découvert sur place un véritable chantier. Deux maisons emportées dans le glissement de terrain, 29 habitations évacuées et 8 personnes portées disparues. Depuis, leurs corps ont tous été retrouvés. Les géologues ont apporté leur aide aux services polynésiens, notamment pour faire un diagnostic de la situation, évaluer le risque, pour organiser le retour des populations dans leur logement. Olivier Monge était sur place. Il est responsable du service géologique de la DIMINC, la direction de l'industrie, des mines et de l'énergie de Nouvelle-Calédonie.
On est intervenu à peu près 48 heures après sur place et on a pu se consacrer sur le technique avec eux, hein, parce qu'ils avaient déjà l'essentiel des informations, mieux diagnostiquer le phénomène. Et puis ensuite, il y avait une demande, comme dans l'immédiat, il y avait un périmètre d'évacuation qui avait été établi, de permettre le retour de certains. Donc l'idée, c'était tout de suite de pouvoir voir si on pouvait rendre accessibles certains logements. Donc le premier jour, on considère qu'il y a 9 logements sur les 29 qui peuvent être de nouveau occupés. On a essayé d'affiner ça au fur et à mesure et avec quelque chose d'un peu plus abouti à la fin de notre déplacement.
Olivier Monge était déjà intervenu en 2016 lors de l'éboulement survenu à Wailou qui avait causé la disparition de 8 personnes. C'est d'ailleurs après cet événement que le projet de cartographie des aléas mouvements de terrain a été lancé en Nouvelle-Calédonie. Aujourd'hui, il est coordonné par Yael Guillaumard qui s'est aussi rendu en Polynésie française le mois dernier.
On a pu avoir ces moments d'échange où on a comparé nos travaux respectifs et on leur a évoqué tout l'intérêt qu'il y avait, notamment à adapter leur inventaire et de passer d'un inventaire ponctuel à un inventaire surfacique. Un inventaire ponctuel, qui est l'inventaire actuel en Polynésie, ça consiste à juste indiquer un phénomène avec un seul point GPS et sur ce point on va reporter des informations, comme ça. L'inventaire surfacique, on va dessiner l'enveloppe du phénomène et ça va nous permettre de recalculer derrière des zones de propagation et de recalculer des angles d'énergie, des surfaces, tout un tas de paramètres qu'on va pouvoir utiliser pour faire des calculs géostatistiques.
Au total, les deux géologues sont restés 7 jours à Tahiti. Ils ont pu être envoyés en renfort car le président du gouvernement, Alcide Ponga, a répondu positivement à la demande des services polynésiens dans une démarche de coopération régionale.
Et déjà, c'est pas nouveau, hein. Je veux dire, quand il y a eu le tremblement de terre au Vanuatu, on a eu du personnel de la Nouvelle-Calédonie et même de l'État qui ont participé. Donc on est toute une zone où on doit s'entraider, s'accompagner. Et donc là, c'était tout à fait normal que dans cette demande que l'État ici nous a sollicité pour pouvoir envoyer de l'expertise et aller accompagner nos amis polynésiens dans l'événement dramatique qu'ils subissaient.
Il y a quelques années, la Nouvelle-Calédonie a d'ailleurs mis en place un portail dédié aux aléas géologiques. Il s'agit du site internet georisque.georep.nc.
Un peu d'air pour la NMC. La filiale de la SMSP est en difficulté et même menacée à court terme de cessation de paiement, Jean-François Baudin.
Ce qui inquiète évidemment les 650 salariés de la Nickel Mining Company. Une partie d'entre eux avait d'ailleurs manifesté il y a quelques jours devant le Haut Commissariat. La SMSP ne pouvant venir en aide de sa filiale puisqu'elle est elle-même en procédure de sauvegarde, les salariés de la NMC demandaient une intervention de l'État. Depuis, le Premier ministre a détaillé une partie du plan de relance et Sébastien Lecornu a annoncé un plan stratégique pour le nickel et manifester son souhait de transformer la filière et de prendre les engagements nécessaires à son succès. Mais il faudra des mois de travail avant de voir ce plan stratégique émerger et la NMC n'a plus le temps d'attendre. La semaine dernière, le patron de la SMSP s'est rendu en Corée où l'usine de Gyeongyang traite le minerai de la NMC. Il a obtenu le paiement par avance de plusieurs bateaux de minerai en provenance de Nouvelle-Calédonie. Ce n'est donc qu'une bouffée d'oxygène qui reporte l'échéance d'une cessation de paiement à mi-janvier au lieu de mi-décembre.
Les exploitants de Nakamal créent leur plusieurs fédérations et demandent une concertation immédiate aux institutions. En août dernier, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie proposait au travers d'un projet de loi du pays d'encadrer les établissements de vente et de consommation de cava. Pour faire entendre leurs inquiétudes, les professionnels du secteur se sont regroupés au sein de la Fédération des artisans du cava, FAK, et se sont rapprochés de la CPME. Thomas Garez est le porte-parole de la Fédération des Nakamal à la CPME.
Ce qui nous inquiète beaucoup, c'est l'assimilation à l'alcool. Aujourd'hui, il n'y a aucun document scientifique qui peut faire un rapprochement entre l'alcool et le cava. Et ensuite, ce qui fait peur aujourd'hui, c'est vraiment ce système de licence qui est très restrictif, encore plus restrictif que celui des bars. Avec aussi un numerus clausus délivré par soit les communes de l'agglo, soit le gouvernement, le cas échéant. Sur quoi sera basé le nombre de licences? Sur quels critères? Tout aujourd'hui, il n'y a aucun état des lieux qui fait des nakamals. On ne sait pas combien de nakamals existent. Qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi? Parce que justement, on n'a pas ce code APE dédié. Certains sont en salon de thé, d'autres sont en patenté vente de boissons. Aujourd'hui, les acteurs ils sont prêts à se fédérer parce que c'est quand même des entreprises qui dégagent certains chiffres d'affaires, qui ont des salariés. Et s'étonnent qu'il n'y ait eu aucune concertation. Et donc, nous, à la CPME, on leur a expliqué que d'aller voir tous les acteurs un à un, ça ne se fait pas. Et donc, il faut qu'ils se fédèrent pour porter un message commun envers les institutions.
Des courriers seront envoyés par le FAK aux différentes institutions du territoire avant mercredi pour demander une concertation. La fédération souhaite également qu'une étude d'impact complète soit effectuée. La création d'une licence spécifique adaptée aux us et coutumes du cava, mais aussi des mesures transitoires pour protéger les établissements existants. La délinquance augmente à Poindimier. Face à cette situation, un collectif d'habitants s'est formé et a manifesté aujourd'hui devant la mairie et la subdivision de Poindimier. Les participants souhaitaient exprimer leur mécontentement et demander des renforts de gendarmerie sur le terrain, ainsi que la remise en service de l'éclairage public dans les rues. Les explications de Patrick Watanabe, membre du collectif.
L'objectif de cette manifestation se porte essentiellement sur l'incivilité, les agressions, l'alcool sur les voies publiques. On constate que l'incivilité a augmenté d'un cran, là, en l'espace de quelques temps, sur l'ensemble du territoire de la commune de Poindimier. Donc on a commencé par un rendez-vous auprès de l'antenne de la subdivision de Poindimier, où on a pu rencontrer le responsable pour lui présenter nos doléances. Donc on lui demande de nous mettre plus de moyens de gendarmerie sur le terrain, hein, puis d'intervenir peut-être aussi plus rapidement, puis de mettre d'autres moyens plus efficaces et rapides lorsqu'il y a une demande d'intervention. Quand la mairie, on leur demande de remettre de l'éclairage et de s'occuper de l'entretien des abords de la commune, ainsi que les logements qui leur appartiennent, qui sont mis de côté, qui sont abandonnés depuis déjà des années, quoi.
Le collectif se réunira ce vendredi à la mairie de Poindimier avec la gendarmerie, l'État et les coutumiers pour faire le point sur la situation. Et une association pour défendre les intérêts des agriculteurs du Mont d'Or. Le collectif Agri-Sentinelle Mont d'Or s'est constitué il y a quelques semaines. Composé d'une dizaine d'exploitants, il a pour objectif d'apporter une réponse aux vols et infractions qui se multiplient depuis l'année dernière. Les professionnels travaillent avec les forces de l'ordre pour assurer la sécurité des terrains et des professionnels. Stella Levanao est secrétaire de l'association.
Pourquoi on s'y met en place? C'est pour aussi avoir une légitimité. On a aussi un référent sécurité, la gendarmerie, qui vient nous conseiller sur comment protéger une exploitation agricole. C'est compliqué aussi de pouvoir tout sécuriser. Et puis, c'est un coût. Et l'association est là aussi pour regrouper les demandes, pouvoir faire des commandes à des fournisseurs en grande quantité pour pouvoir négocier des tarifs à moindre coût. Donc, l'idée, c'est ça. Et bien sûr, de référencer tous ces professionnels qui n'osent pas parler, parfois. Ça fait partie du rôle de l'association de sensibiliser, d'aider et de leur expliquer pourquoi c'est important de porter plainte auprès de la gendarmerie.
Sur initiative de la gendarmerie mobile, le dispositif Soleil Vert a également été mis en place le 30 octobre dernier et semble faire ses preuves, selon Stella Levanao. L'association Agri-Sentinelle du Mont d'Or invite tous les exploitants agricoles à rejoindre leur initiative.
RRB, il est 18h09.
La préparation des élections municipales. À 3 mois du premier tour, le Haut Commissariat annonce la généralisation de la dématérialisation de la procuration. Jean-François Baudin.
Le premier tour des municipales, ce sera le 15 mars, le second tour une semaine plus tard. Et les personnes qui savent déjà qu'elles ne seront pas en situation de se rendre dans leur bureau de vote ce jour-là peuvent avoir recours à une procuration. Et la demande peut désormais se faire en ligne. Pour les personnes qui vivent en Calédonie, il suffit de se rendre sur le portail NC Connect et de déposer une demande de procuration procuration via le téléservice maprocuration.gouv.fr. Elles reçoivent alors un code. Munies de ce code et d'une pièce d'identité, elles doivent ensuite se rendre dans n'importe quel commissariat de police ou brigade de gendarmerie pour faire valider la procuration, qui sera alors transmise immédiatement et de façon dématérialisée vers la commune dans laquelle l'électeur est inscrit.
Au cœur de Noël avec l'OPT. Pour que Noël soit une fête pour tous.
Nous en sommes à la dernière semaine de notre opération au cœur de Noël. Au cœur de Noël, c'est l'occasion d'apporter ce que vous souhaitez pour donner aux plus démunis. Un geste d'attention et de solidarité qui va permettre aux familles en difficulté d'offrir à leurs enfants des cadeaux pour que Noël soit une fête pour tous. Tout ce que vous apportez sera distribué aux familles par nos partenaires, la Croix-Rouge, le Secours catholique et la Société Saint-Vincent de Paul, avec le concours de la Table ronde française. Encore merci à tous. Et avant une deuxième pause dans notre journal, ce rendez-vous d'antenne, en ce début de vacances scolaires, nous consacrerons demain notre magazine citoyen au centre d'activités et de loisirs. Pour en parler, nous recevrons Paul-Antoine Grandjean, directeur de la culture, de la jeunesse et des sports de la province sud, Christian Canel, secrétaire général de la CAF, et Brieux-Pierre Large, directeur de l'association Les Villages de Magenta, un magazine citoyen consacré au centre aéré à retrouver demain midi sur Radio Rythme Bleu. Il est 18h11, seconde pause avant de passer au sport.
RRB, pour être au cœur de l'actualité. RRB, nos efforts valent bien un geste fort. Soutenez-nous, faites un don. Par chèque, virement ou en espèces aux 4 rues de Sébastopol. Toutes les infos sur rrb.nc ou sur la page Facebook. RRB, les fréquences aux couleurs de la France.
Mercredi 24 décembre, c'est le réveillon de Noël. Pensez à réserver votre table au restaurant Le Fun au 28 67 08. Retrouvez les suggestions spéciales Noël sur la page Facebook Le Fun.
Savez-vous que des appareils propres utilisent moins d'énergie ? Pensez à nettoyer régulièrement le filtre de la cuve et le joint de porte de votre lave-vaisselle et à dépoussiérer régulièrement la grille de votre frigidaire ainsi que vos lampes et luminaires.
Retrouvez toutes les astuces éco-conso sur le site EEC. Sur RRB, il n'y a pas de jour sans EEC.
Construisons notre pays, économisons l'énergie.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
La fin de votre journal Le Sport avec Léana Colombo.
À la une de l'actualité sportive du handball et l'équipe de France avec la Calédonienne Chizan Wajoka qui ont terminé le mondial avec la médaille de bronze, Léo Fichou.
Oui, malheureusement, les tricolores n'ont pas conservé leur titre de champion du monde, mais la jeune génération a tout de même réussi à terminer sur une victoire, une dernière victoire au bout du suspense à l'issue des prolongations et contre l'un des pays hôtes de la compétition, les Pays-Bas, victoire 33-31. La Calédonienne Chizan Wajoka, qui dispute à 24 ans son premier mondial sous les couleurs de l'équipe de France, nous a fait part de sa grande émotion. Écoutez.
Franchement, ce sentiment, c'est beaucoup de fierté, beaucoup de fierté. Je suis trop contente qu'on soit arrivé là. Je pense qu'on ne s'y attendait pas à être là maintenant, à avoir la médaille de bronze. Mais après tout le chemin parcouru, franchement, on est tout contente du coup d'avoir la médaille. Et franchement, c'est un truc extraordinaire ce que je suis en train de vivre et ce qu'on est en train de vivre. À tout le peuple calédonien, aujourd'hui, la médaille, elle est à nous, elle est à nous. Et je rentrerai sur le territoire avec cette médaille de bronze.
Et Suzanne Wajoka qui a également pris le temps de remercier Olivia Vaitanaki, son mentor, Olivia Vaitanaki qui était ce soir dans nos studios. Elle a fait le bilan de ses mondiaux dans une semaine formidable et elle a bien évidemment répondu à son amie Suzanne Wajoka. Écoutez.
J'étais très émue en fait quand je l'ai entendue, puisque bon, quand on échange, elle va me le dire, mais là, que ça passe par la radio, c'est vrai que de le déclarer à tout le monde, c'est quand même un grand signe de reconnaissance. Donc c'est vraiment touchant et je suis vraiment émue et très contente de ce message. J'ai découvert Suzanne il y a 10 ans et j'ai fait un suivi en fait, on va dire quasiment quotidien depuis qu'elle est jeune. Et c'est vrai qu'elle a souvent besoin, de mon avis, enfin, elle aime bien, elle se sent en confiance et c'est vrai qu'elle sait très bien que je ne vais pas lui mentir. Donc quand elle fait de belles performances, je lui dis. Quand elle est en delà de son niveau, je lui dis aussi. Et puis des fois, j'essaye aussi de la faire rire pour la détendre parce que une heure avant le match, voilà, c'était assez compliqué. Bon, moi, je viens du milieu du haut niveau et c'est vrai qu'on s'entend très bien en fait. Tout ce qu'elle vit, sa relation avec l'entraîneur, avec ses coéquipières, la difficulté d'enchaîner les matchs, je sais ce que c'est. Donc c'est vrai que c'est assez facile pour moi de l'orienter et j'essaye de faire au mieux pour qu'elles ne fassent pas les mêmes erreurs que moi. Et je pense qu'aujourd'hui, je pense que c'est pas trop mal.
Mais c'est pas trop mal, effectivement, puisque Suzanne Wajoka a inscrit 35 buts dans ce mondial avec plus de 90% de précision au tir, soit l'un des meilleurs pourcentages de la compétition. Et puis on notera qu'en finale, la Norvège a dominé l'Allemagne 23-20.
Et ce midi, nous avons parlé kickboxing dans le Mac des Sports. Cédric Do était notre invité. Quelques semaines après son nouveau succès sur les rings de métropole, face à un adversaire ex-numéro 1 français, ancien champion d'Europe et intercontinental en K1, Cédric Do a signé à cette occasion sa 50e victoire chez les pros et sa 30e par KO. Le Calédonian Fighter se prépare déjà à un nouveau combat.
Ça faisait un bon bout de temps que je n'avais pas boxé aussi en France. Et déjà même sur la scène nationale ou internationale, je suis pas beaucoup présent sur les événements du fait de la distance, des événements qui avaient eu lieu l'année dernière. Donc j'avais pu boxer qu'une fois. Et donc du coup, cette année j'avais une blessure en début d'année. Le Glory avait annulé mon combat en juin. Donc pareil, cette année j'ai pas pu beaucoup boxer. Mais j'ai pu remettre mon nom sur la scène nationale en tout cas. Donc du coup, ça a fait pas mal parler. C'est pour ça que on m'a reproposé des combats assez vite aussi. J'ai une proposition pour février. Du coup, je savais qu'une bonne prestation, ça allait forcément relancer avec le Glory aussi les opportunités. Et donc là, ce sera pas une petite opportunité puisque c'est directement le numéro 3 du classement. Je dis numéro 3 mondial parce qu'aujourd'hui, le Glory Kickboxing, c'est la Ligue des champions du kickboxing. C'est comme l'UFC en MMA. Ils me rappellent directement pour faire ce combat. Donc je pense qu'ils ont aussi des attentes envers moi. Moi, il faut que je puisse leur rendre ces attentes en faisant des belles prestations. Ça arrive assez vite. Hein. C'est déjà en février, début février. Il faut vite se remettre à l'entraînement. Donc j'ai repris l'entraînement. Il va falloir bien préparer ce combat.
Cédric Do, qui était notre invité dans le Mac des Sports. Une interview à retrouver dans son intégralité sur notre site internet rrb.nc. Cédric Do qui continue également de proposer des cours au plus jeune et de partager son expérience au sein de la Cédric Do Academy. Enfin, du basket sur le territoire avec la suite et peut-être la fin ce soir des finales dames de Nouvelle-Calédonie, Léo Fichou.
Oui, puisque les féminines joueront le match 2 ce soir à 19h, donc ce sera du côté de la salle Omnisport de Lens-Vata. Samedi, lors du match 1, les Mondoriennes ont battu les joueuses de Rivière-Salée 75-49. Les tenantes du titre vont donc tenter de conserver leur couronne pour la deuxième année de suite, à condition bien évidemment de garder leur avantage sur leurs adversaires. Je le disais, le match 2 des finales territoriales féminines est prévu dès 19h à la salle Omnisport de Lens-Vata.
Merci Léo Fichou pour toutes ces précisions et on passe tout de suite à la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Et la météo, c'est avec vous Pierre.
Cette nuit, le ciel se chargera sur la pointe sud, l'île des Pins et Marais où des averses parfois soutenues circuleront dans le flux de sud-est. Ailleurs, le temps s'améliorera progressivement, le ciel se dégagera et deviendra largement étoilé, malgré quelques averses résiduelles encore possibles en début de nuit sur l'est. Le vent de sud-est mollira, soufflant entre 10 et 15 nœuds et plutôt 5 à 10 nœuds le long du littoral de la Grande Terre. Les températures nocturnes évolueront entre 22 et 25 degrés et pourront descendre localement vers 20 degrés sur l'ouest. Demain matin, des nuages accompagnés d'averses isolées circuleront encore fréquemment de la pointe sud jusqu'aux Loyautés. Ailleurs, le ciel restera peu à passagèrement nuageux avec un temps sec dans l'ensemble. Le vent de sud-est se renforcera, soufflant entre 15 et 20 nœuds, localement autour de 20 nœuds sur l'ouest et entre 10 et 15 nœuds sur l'extrême nord, comme aux Loyautés. Côté marée, elle se rabasse ce soir vers 23h06. Elle remontera ensuite pour atteindre son plein niveau demain matin autour de 5h54, puis enfin de redescendre en fin de matinée avec une basse mer attendue vers 11h35.